LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Je m'appelle Antoine Meynier. J'ai 66 ans maintenant et je suis médecin. J'étais à Bordeaux. J'étais médecin du Girondin de Bordeaux. Et j'avais un joueur qui s'appelait Patrice Eustache qui était devenu mon meilleur copain. Un jour, à l'arrêt de sa carrière, il faisait du sport. Il est venu me voir et il m'a dit « J'ai mal aux jambes, je suis fatigué, j'ai maigri, j'ai des muscles qui tremblent. » Je me suis aperçu qu'il avait la maladie de Charcot auquel j'avais pensé de suite, c'est-à-dire une sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie neurodégénérative incurable. Et la maladie de Charcot, c'est la pire de toutes parce qu'il n'y a aucun traitement qui soit efficace. Et donc, c'est un tremblement de terre, c'est mon meilleur ami, je le regarde, je me dis, mon copain, il va mourir avant tout. Je me dis ça, c'est pas le médecin qui parle, c'est l'ami. Et donc, je lui ai annoncé le diagnostic et son premier mot, ça a été de me dire, le jour où je te ferai signe, est-ce que tu seras là pour me faire partir dans les étoiles? C'est les mots qu'il m'avait employés. Donc, au début, on dit toujours oui. Et après, progressivement, moi j'ai pas fait métier de médecin pour faire mourir les gens. Mais là, je me dis que je pourrais pas le soigner.
Des vivants jusqu'à la mort. Une série documentaire d'Émilie Chaudet, réalisée par Cécile Lafont. Premier épisode, Anatomie d'un tabou.
Donc je l'ai accompagné tout le temps. Progressivement, il a eu de plus en plus mal aux jambes. Il pouvait de moins en moins marcher. Il avait beaucoup moins de force dans les bras, dans les mains. Donc il s'est dégradé jusqu'au moment où il avait des difficultés respiratoires. Et à ce moment-là, le hasard a voulu qu'il ait été trachéotomisé. Donc à ce moment-là, on branche avec une machine. On fait un petit trou au niveau du larynx et puis on fait une canule qui est branchée avec un appareil. On a un poumon artificiel, entre guillemets. Donc dans ces cas-là, vous pouvez vivre longtemps. Arrivé fin mi-octobre, il a réuni sa femme, ses enfants et moi. Il ne pouvait pas parler à l'époque, on ne parlait que par les yeux, c'est-à-dire qu'il fallait faire un tableau où j'avais fait un alphabet. Et quand je passais pour dire mon prénom, par exemple, quand je passais devant là et clignais les yeux, il fallait que j'aille jusqu'au N pour faire ça. Et donc il a dit voilà, c'est décidé, je veux tel jour. Avant Noël, après l'anniversaire de ses enfants, après l'anniversaire de mariage, enfin, il avait décidé de mourir et que je l'aide à mourir. Voilà. Et donc je voulais tenir ma promesse. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y avait une infirmière qui était salariée de chez eux, qui travaillait non-stop, qui n'avait pas du tout les mêmes convictions que le malade, et que moi, du coup. Et donc elle m'a dénoncé au procureur de la République, en disant, il y a quelqu'un qui est en train de faire un truc illégal, qui va euthanasier un patient. Donc j'ai la chance, dans mon malheur, j'ai la chance, le procureur de la République m'a appelé, en me disant, j'aurais aimé connaître un médecin comme vous, parce que ma femme est morte de la maladie de Charcot. Et donc, je vais prendre la plainte que j'ai reçue aujourd'hui contre vous, je la déchire, mais par contre, à partir de maintenant, respectez la loi, parce que je ne pourrais pas vous protéger deux fois. J'étais jeune, j'avais des enfants, je ne pouvais pas passer ma vie en prison, parce qu'on est dans l'illégalité totale. Donc, je me suis retrouvé dans une situation épouvantable, où il fallait que j'annonce ça à mon ami, en lui disant « je ne peux pas faire ce que tu m'as demandé ». Donc, on a respecté la loi Leonetti, c'est-à-dire que le malade, à cette époque-là, s'était arrêté tout traitement de son propre chef. C'était légal, avec un des experts médicaux qui avait constaté qu'il pouvait rentrer dans le cadre de la loi. Il fallait deux ou trois médecins. Et donc, il arrêtait de se soigner. Donc, ça a duré trois semaines, un peu plus même, un mois. Puis un jour, je me suis réveillé le matin de bonne heure et je me suis dit, c'est pas possible, j'ai promis, il faut prendre des risques à vie, il faut s'engager. Et c'était facile à faire, j'ai respecté ma promesse. Voilà.
Comment vous avez fait?
Je vous le dis, je veux pas aller en prison. Enfin, je suis déjà prisonnier de mon corps, ce que je dis, donc de toute façon, qui m'y foutent, si ça peut faire changer les lois, c'est tout ce que je demande. J'ai débranché l'appareil respiratoire. Voilà. Et c'est quand même dur, j'ai fait deux ans de psychiatrie après, un peu plus même. Je peux parler, je peux exorciser, me déculpabiliser. On a une part de culpabilité. Et pourtant, je sais très bien que ce que j'ai fait, c'était génial. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Mais néanmoins, je l'ai fait, quoi. Voilà.
Quelques années plus tard, Antoine Meynier découvre à son tour qu'il est atteint de la maladie de Charcot. L'histoire se répète et le jour même du diagnostic, il demande à son ami le plus proche d'être celui qui l'aidera à mourir le moment venu. L'histoire d'Antoine me ramène au souvenir d'un de mes proches, Pierre, 82 ans, à qui l'on a diagnostiqué il y a 2 ans une leucémie à un stade assez avancé. Au vu de son âge et de son état de santé déjà fragile, les médecins lui ont dit que le traitement lui serait plus pénible encore que les symptômes de sa maladie. Pierre a plutôt bien pris ses annonces, pourtant difficiles à entendre. Mais au fil des jours, il se mettait à redouter la fatigue, la dégradation de son corps et la dépendance qui en découlerait nécessairement. « Si je dois quitter mon appartement et aller en EHPAD, me disait-il, je prendrai une surdose de mes médicaments et je partirai. » Je crois lui avoir répondu « Je comprends. » Mais je pense qu'il aurait voulu entendre « Je serai là. » C'est en entendant le récit d'Antoine que j'en ai pris conscience. Le déni dont je faisais preuve à l'époque m'empêchait de regarder cette situation en face. Une semaine plus tard, les voisins de Pierre l'ont retrouvé presque inconscient devant la porte de son appartement et il est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard. En y repensant, je me demande pourquoi nous avons tellement de mal à écouter et à accompagner ces gens qui désirent choisir leur mort lorsque celle-ci est proche. Pourquoi nous, les vivants, les bien portants, nous regardons tant la mort comme un non-sujet, quelque chose qui ne nous concerne pas. Pourquoi nous condamnons-nous enfin à être si seuls face à la mort ?
On a relégué la mort dans un coin obscur de notre inconscient collectif.
François Blot, médecin réanimateur et président du comité d'éthique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif.
On ne meurt plus à la maison en accompagnant notre ancien avec les petits-enfants qui rentrent dans la chambre, qui font silence ou même qui jouent autour. Non, on meurt à l'hôpital. Donc tout ça a abouti à une forme d'impensé collectif qui fait que quand la mort arrive, avec en plus parallèlement une médecine qui peut de plus en plus de choses, comment arriver à concilier l'idée que nous sommes mortels, qu'on a une finitude possible, alors que la médecine propose de plus en plus de solutions pour la quasi-totalité des questions qui se posent. Et donc il faut là aussi une avancée philosophique et une conscientisation de la part de nous tous du fait qu'il y a un moment ça s'arrête.
En fait, longtemps, la grande affaire de la mort, c'est le salut, c'est le passage vers l'au-delà.
Anne Carole, historienne.
Et le prêtre va donc permettre au mourant de préparer son salut par l'onction, par la confession, etc. Dès la fin du XVIIIe siècle, s'enclenche un mouvement qui fait que, dans la société, l'ici-bas compte de plus en plus par rapport à l'au-delà dans les enjeux. On le voit dans les testaments, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, voilà, les testaments vont de plus en plus dans le sens de ce qu'il faudra faire sur terre plutôt que de ce qui prendra soin de l'âme au ciel. Donc la perspective change assez considérablement avec la déchristianisation, de fait. Les médecins vont rester de plus en plus présents au chevet des mourants une fois que le pronostic fatal est posé. Ils restent, mais ils n'ont pas forcément les moyens d'agir. Et cela va introduire chez les médecins une culture du mensonge auprès du patient, mensonge par omission ou du mensonge délibéré, qui contraste totalement avec la position qui était la leur auparavant, puisque, encore une fois, la grande affaire, c'était de faire son salut, donc forcément, il fallait avertir le patient qu'il allait mourir pour qu'il puisse préparer son salut, se mettre en règle avec Dieu, etc. etc. À la fin du XIXe siècle, se développe donc cette culture du combat. Non plus combattre la maladie, puisque tout espoir est perdu, mais combattre la mort. Donc une espèce de face-à-face entre le médecin et la mort, où le patient a assez curieusement disparu, ou en tout cas est passé au second plan. Et donc l'idée, ça va être de prolonger par tous les moyens possibles, voire de ranimer lorsque la mort semble survenue. Il y a donc une forme de ce qu'on appellera plus tardivement l'acharnement thérapeutique qui est pratiquée par les médecins sur les mourants et qui est dénoncée d'ailleurs assez tôt, y compris dans le monde médical, comme étant de la dysthanasie, c'est-à-dire une façon de fabriquer de la mauvaise mort, de la mort dans les souffrances, dans l'effort, dans les tortures de ces dernières solutions thérapeutiques extrêmes. Donc il faut prolonger et surtout pas abréger la vie.
Il y a 50 ans, souvent, à la à la première maladie, on mourait. Or, depuis 50 ans, la médecine a fait un bond qualitatif absolument magistral et on arrive maintenant à vivre beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus de pathologies chroniques qui vont durer, qui vont se cumuler. Et de plus en plus, la médecine a, point par point, une réponse à ces questions. Et puis, je pense qu'il y a un moment où, certes, on arrive toujours à continuer à traiter des choses, mais la qualité de vie, elle est de moins en moins, elle, au rendez-vous. D'où aussi le fait que la médecine en elle-même participe à créer les conditions de la demande d'aide active à mourir, paradoxalement.
Si l'on en croit l'éclairant ouvrage de la cardiologue Véronique Fournier, intitulé « La mort est-elle un droit ?», la question du droit à mourir occupe le débat politique et social en France depuis les années 80, en plein pendant les années sida et aussi après une décennie marquée par l'avènement de la réanimation. C'est à ce moment-là qu'émerge la notion d'acharnement thérapeutique. On sent alors poindre, très timidement, cette idée que le patient pourrait avoir son mot à dire sur ce qu'il voudrait que la médecine lui apporte ou cesse de lui apporter. Il faudra néanmoins attendre 2002 pour qu'une première loi, la loi Kouchner, mette au centre ce droit du patient à accepter ou à refuser un traitement, même si cela doit précipiter sa mort. 2002, c'est aussi l'année où le jeune Vincent Humbert, 21 ans, devenu tétraplégique, muet et aveugle à la suite d'un accident de la route, demanda au président Chirac le droit d'être aidé à mourir. En l'absence de réponse positive à sa demande, il organisa lui-même les choses avec l'aide de sa mère et d'un médecin, tous deux poursuivis en justice et bénéficiant finalement d'un non-lieu. C'est à ce moment-là que le sénateur Jean Leonetti se voit confier une mission parlementaire qui aboutira en 2005 à une loi qui condamne l'obstination déraisonnable et donne le droit aux médecins d'arrêter un traitement s'ils estiment que cela est contraire à l'intérêt du patient. Il a fallu ensuite attendre 11 ans de plus pour que la loi évolue encore. La loi Claeys-Leonetti, qui donne aux patients malades, avec un pronostic vital engagé à court terme, le droit d'être endormi profondément. Ce qu'on appelle une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Seulement voilà, un bilan publié par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie en 2018 et supervisé par la neurologue Valérie Ménage nous apprend que ce droit du patient n'a que très peu été appliqué jusque-là.
Ce qui fonde ce droit nouveau à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'était justement ce constat qu'il est des situations où la maladie est là. Elle est grave, elle est incurable, on sait que la personne va en mourir, il a des souffrances que rien ne peut apaiser, et il demande l'aide de la médecine. Nombre de professionnels de santé ignorent quels sont ces cadres d'accès de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il y a un vrai manque de connaissance de cette possibilité qu'a un patient de demander l'arrêt de ses traitements de maintien en vie. Il a le droit de demander l'arrêt de sa nutrition. Il a le droit de demander l'arrêt de traitements qui vont effectivement le faire basculer dans une fin de vie prochaine. Et de fait, il a le droit de demander à être endormi profondément avant même cet arrêt. Pas d'attendre qu'il en souffre. Si la loi Claeys-Leonetti a bien précisé ce cadre-là, c'est pour qu'il n'ait pas à souffrir de cette demande d'arrêt de ses traitements. C'est vraiment un droit des patients qui avait totalement modifié finalement la relation patient-médecin, puisque là il s'agissait de répondre à la demande d'un patient, ce qui n'est pas en règle générale la relation habituelle, où c'est quand même un médecin qui propose et le patient qui consent. Et oui, de fait, on se rendait compte que ce changement de paradigme n'était pas compris comme tel. Et que dans bon nombre de situations, ça restait sous-tendu à la décision médicale, sans intégrer le fait que c'était un droit nouveau.
Je m'appelle Véronique Schaeffer. Alors, mon mari donc, a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau en 2018. Donc, il a d'abord été opéré de ce gliome, très bien. Et puis, lors d'une visite de contrôle en novembre 2021, après une IRM, nous sommes aperçus qu'il y avait cette fois de nouveau une tumeur, mais de l'autre côté du cerveau, tumeur non opérable. La question a été de se dire, est-ce qu'on partait dans un traitement ou pas ? Et en juillet 2022, il s'est avéré qu'il y avait peu de résultats, pour ne pas dire pas du tout. Donc il a dit, en lien avec son oncologue, on a perdu la partie, on arrête. Donc ça voulait dire aussi comment cette fin de vie allait s'accompagner.
Donc une chose était tout à fait claire entre nous, c'est que cette fin de vie, elle se passerait à la maison. Pierre ne voulait absolument pas intégrer une unité de soins palliatifs hospitalière. Il préférait une qualité de vie plus courte, mais au moins une vraie qualité de vie. Il restait à domicile parce qu'il avait aussi son piano, ses livres, un univers qu'il connaissait et qu'il avait envie de conserver jusqu'à la fin. La dernière semaine de septembre, la situation de Pierre s'aggravait de plus en plus. Et donc, Pierre avait très clairement dit qu'il ne... À la limite, il souhaitait mettre fin à ses jours. Il avait acheté des médicaments, il avait même écrit un mot à ses confrères du SAMU en disant « Voilà ce qui se passe, j'ai avalé des médicaments, je ne veux surtout pas être réanimé. » Et s'il ne l'a pas fait, c'est aussi parce que j'étais là et que la loi ne le permet pas. Vous ne pouvez pas faire ça, sinon vous vous retrouvez après dans des difficultés absolument sans nom qui sont des difficultés de « Mais est-ce que vous avez attenté au jour de votre mari ou de votre père ou de votre frère ?» Enfin, c'est quand même quelque chose de profondément violent et terrible à assumer. Donc, la seule chose qui restait, c'était en gros une sédation profonde à domicile. Et donc, quand j'ai posé cette question-là, bon, on m'a dit « Prenez contact avec la partie soins palliatifs de l'HAD ». Ce que j'ai fait. Finalement, le médecin arrive à se libérer et elle est venue à la maison le 7 octobre. J'ai dit à Pierre qui était le médecin, etc. Donc, il avait les yeux fermés, mais il entendait encore et il lui a simplement dit « Je n'ai pas changé d'avis ». Donc, on a ensuite quitté le lieu où il était et puis on a discuté avec elle. Et elle m'a dit « C'est rigoureusement impossible de faire une sédation profonde à domicile ». Elle a eu un terme assez incroyable, elle m'a dit, mais il y a la loi rédigée pour les citoyens et il y a la réalité médicale. Voilà. Donc, voilà, on a discuté et puis elle m'a dit, il y a deux options. Moi, je dis, on va mener les deux options en parallèle, c'est-à-dire augmenter toujours les anxiolytiques, etc. pour Pierre, pour qu'il reste calme et le plus, entre guillemets, serein possible. Et puis, en même temps, on recherche une place en unité de soins palliatifs. Et puis, au bout de quelques jours, complètement par hasard, une infirmière arrive et elle me dit « voilà, je sors tel traitement, tel traitement, tel traitement ». Et je lui dis « mais je ne comprends pas. Vous augmentez les anti-inflammatoires, mais ce n'était pas ce qui était prévu avec l'oncologue ». Et elle me dit « ah, mais vous n'êtes pas au courant. Il y a eu une réunion pluridisciplinaire sur le cas de votre mari lundi. Je ne suis absolument pas au courant, donc je voudrais savoir ce qui se passe exactement. » Elle m'a dit « oui, pas de souci, mais si vous voulez, appelez le médecin chargé des soins palliatifs. » Donc ça, c'était un deuxième médecin. Donc je l'appelle et là, cette fois, j'ai vraiment une discussion au fond avec ce médecin et qui me dit « mais vous savez, franchement, vous devriez le transférer en unité de soins palliatifs. C'est vraiment, je pense, indispensable pour la fin de vie, etc. etc. » Et puis, je l'écoute. J'ai dit, on recherche une place en unité de soins palliatifs. Et finalement, il y a une place qui s'est libérée. Et donc, on a transféré Pierre en unité de soins palliatifs le 12 octobre. J'étais dans l'ambulance avec lui. Je ne saurais jamais s'il s'est aperçu ou pas que nous allions le transférer et qu'on le transférait. Et puis, il est décédé dans la nuit du 14 au 15 octobre. Moi, j'étais avec lui. Voilà. Ça a été pour moi extrêmement lourd parce que, d'une certaine manière, on n'avait pas respecté ce qu'on lui avait promis. Et puis ce manque, si vous voulez, de coordination, le fait qu'on avait toujours un train de retard, qu'on n'était pas au courant, que voilà, il y a... Et on sentait la gêne, souvent, des médecins ou des soignants, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent dire à la famille, ce qu'ils ne peuvent pas dire. Eux-mêmes, ils ne sont pas très à l'aise dans ce type de situation. Et compte tenu, moi, de mon origine professionnelle, puisque je suis directeur d'hôpital à l'origine et j'ai été inspecteur des affaires sanitaires et sociales, donc j'ai fait plus de 30 ans dans la santé, il ne me semblait pas possible de ne pas réagir face à une telle situation, c'est-à-dire de me dire il faut poser ces problèmes-là. Et donc je suis rentrée dans le débat de l'accompagnement de la fin de vie pour me dire que ce que nous avions vécu, nous, il fallait en tirer les leçons en termes de pratique au quotidien, en termes de formation pour les soignants et les médecins, ne pas remettre en cause les soins palliatifs où on a des gens très impliqués et techniciens, mais il faut aussi qu'ils entendent que des patients puissent aussi avoir une autre demande que des soins palliatifs. Et que, très concrètement, c'est un problème que l'on soit pour ou contre l'aide active à mourir. Le sujet, c'est d'abord comment on accompagne la mort en France, chez nous. Et on s'aperçoit que les médecins sont très dépourvus, pour beaucoup d'entre eux, par rapport au questionnement de la mort et par rapport à la façon dont il faut l'aborder avec le patient et avec sa famille.
Avec l'oncologue de votre mari, vous avez eu des discussions qui ont tourné court sur le sujet de la fin ?
Ça n'a pratiquement jamais été abordé. Pierre, à un moment, l'a simplement dit en souriant « faudrait peut-être que je pense au cocktail à mon bon maître un tel », ce qui voulait dire très concrètement, voilà. Et l'oncologue, est un jeune oncologue, lui a dit « mais vous savez bien, Monsieur Schaeffer, que dans le cadre de la loi actuellement, on ne peut pas le faire ». Et ça s'est arrêté là. Il m'a écrit un mail qui était aussi très révélateur, puisqu'on avait fixé un autre rendez-vous au mois de novembre de suivi. Et bien évidemment, quand Pierre est décédé, je lui ai mis un mail en lui disant que on ne viendrait pas. Et il m'a dit, mais bien sûr, madame, je comprends parfaitement, bien évidemment, la situation. Et il m'a dit, et j'espère que les choses se sont passées confortablement. Et l'adverbe confortablement m'a profondément secouée et profondément choquée. Non, ça ne s'est pas passé confortablement. Très souvent, on a des médecins ou des soignants qui peuvent se cacher, entre guillemets, vers les soins de confort. Les soins de confort ne doivent pas être le cache-sexe de notre impossibilité à accompagner la fin de vie et donc la mort.
Quand j'ai commencé mes études médicales, en tant qu'interne, on m'a appris ce qu'il fallait faire en fin de vie.
Denis Labelle, gastro-entérologue, président d'honneur de l'association Le Choix.
La sédation profonde était vraiment continue et on aboutissait à une agonie brève parce qu'on augmentait les doses de sédatifs très rapidement et ça ne traînait pas, contrairement à la situation d'aujourd'hui. Ça s'apprenait, c'était l'enseignement clandestin, c'est dans aucun livre, mais ça passait d'élève en élève, c'était une évidence. Et ensuite, il y a eu la loi Leonetti, puis Claes Leonetti, et par rapport à cette période-là, je dirais presque que c'est un retour en arrière. Il y a cette sédation qui est complètement folle, c'est-à-dire qu'elle est basée sur le fait qu'il faut que les gens soient endormis, une sorte de situation comateuse, mais pas trop, parce que sinon c'est une euthanasie, mais assez pour que tout de même ils sentent rien. Mais attendez, c'est pas une anesthésie générale. Dans une anesthésie générale, le médecin anesthésiste est à côté du malade. Dès que le malade a tendance à se réveiller, on lui injecte un sédatif et de la morphine. Là, le produit, au départ, entraîne un état comateux, mais l'hypnovel, qui est le produit utilisé, a une durée de vie courte. Résultat, les gens se réveillent. Résultat, les gens retrouvent leur douleur intolérable. Alors théoriquement, on doit le remettre une dose. Encore faut-il que le médecin soit là. Donc c'est une illusion de faire croire que cette sédation profonde et continue est un progrès. Non. Alors voilà, il y a un tabou sur ce sujet et on voit que ce tabou touche aussi les politiques. Ils disent tout le temps, les gens ne connaissent pas la loi. Mais si, on la connaît la loi. On n'en veut pas de cette loi. C'est pas acceptable, cette loi. Donc on devrait demander à tous ceux qui jugent la situation actuelle bonne, eh ben, de passer une nuit. Vous voyez, tous les hommes politiques, tous les députés, passer une nuit aux côtés d'un patient qui est en train de mourir. Eh bien, si vous faites une sédation telle qu'elle est dans la loi, au bout d'un certain temps, vous vous poserez trois questions. La première, c'est de vous dire, est-ce qu'il souffre ? Vous verrez, le patient a des trispus, vous voyez, des contractions du visage. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est de vous dire, combien de temps ça va durer ? Puis la troisième question, ça va être, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ?
Il y a du travail à faire, encore une fois, pour oser parler fin de vie.
Valérie Ménage.
Briser ce tabou qui est entretenu par les professionnels de santé, qui sont très mal à l'aise pour aborder avec leurs patients cette possibilité de la fin de vie prochaine, très mal à l'aise pour imaginer les accompagner, parfois très seuls.
Vous vous êtes déjà sentie seule, vous ?
Ah oui, souvent. Le souvenir de grande solitude, c'est la première sédation profonde et continue jusqu'au décès que j'ai faite. C'était une dame qui avait une maladie d'Alzheimer et qui ne pouvait plus manger, qui était grabataire. Nous avions délibérer de façon collégiale des arguments nécessaires et du cadre de la loi qui était respecté. La décision finale me revenait, puisque j'étais le médecin référent de cette patiente, mais c'était ma première. Et j'étais extrêmement préoccupée de répondre à ce que j'avais acté, c'est-à-dire de vraiment permettre à cette personne, une fois endormie, qu'elle ne se réveille pas. Et surtout, une fois endormie, ça voulait dire que j'allais être là et qu'il fallait qu'en quelques minutes, cette sédation soit réelle.
Combien de temps il s'est écoulé, selon vos souvenirs, entre le moment où vous avez activé cette sédation profonde et continue et la mort de cette dame ?
7 jours.
Et est-ce que ça vous a semblé...
Très long. Très, très long. Très long parce que vous imaginez ce que représente 7 jours sans hydratation et sans nutrition chez quelqu'un qui a une maladie qui était déjà responsable d'un amaigrissement. Et j'avoue que cette dégradation corporelle est quelque chose de très difficile à vivre pour nous soignants et pour les proches.
Alors il y a beaucoup de solitude d'une part.
François Blot.
Et d'autre part, c'est aussi la porte ouverte à l'arbitraire, le fait de ne rien permettre sur un plan légal. C'est-à-dire que il y a des rapports qui ont été faits par l'INED il y a quelques années qui chiffraient le nombre d'euthanasies clandestines en France à 400. Alors après, selon qu'on mesure autrement, on arrivait à 2000, etc. On sait qu'il y a des situations de personnes qui partent à l'étranger pour pallier ça. Il me semble que le fait de mettre un cadre légal qui permette que, justement, on limite au maximum toute forme de clandestinité, même qu'on l'abolisse, ça permet à la fois de rendre la justice et de mettre les choses à plat, de façon ouverte, transparente et partagée par des professionnels. Et ça limite la solitude du professionnel qui se trouve confronté à ça.
Alors, ma maman a commencé à être paralysée du côté droit, a pu pouvoir se servir de sa main droite. Étant droitière, déjà, c'était un peu compliqué. Surtout, elle avait 70 ans à cette époque. Donc, suite à ça, on a fait des examens. On nous a annoncé que c'était une dégénérescence cortico-basale. Et quand je suis allée me renseigner sur Internet, en rentrant à la maison, chose qu'on fait tous, je pense, en fait, je me suis rendu compte que c'était les mêmes symptômes que la maladie de Charcot. Et que c'était que le début de la descente aux enfers, quoi. Que la fin, en fait, après, on a des problèmes respiratoires, on peut plus rien faire, quoi. J'ai appelé mon frère pour lui expliquer. J'ai dit, là, on a un problème. Voilà, maman, elle a ça. Donc, je lui avais dit, renseigne-toi de ton côté. Moi, je me renseigne du mien et on voit comment on va faire pour aider maman à vivre avec cette maladie-là. Et on s'est renseigné pour mettre en place les aides à domicile, en fait. Mais c'est long, elle me disait, ça va finir quand et ça va aller jusqu'où parce que je ne veux pas connaître pire que ça, quoi. Je ne veux pas finir sur un lit avec des couches, je ne veux pas connaître ça, quoi. Et en fait, elle nous a tendu une perche et c'est là que j'ai dit, il faut qu'on y aille. Et donc là, on a commencé à en parler, on a commencé à se renseigner, on a fait les directives de fin de vie, on a vu que ça existait, on les a imprimées, on les a remplies, tant qu'elles pouvaient parler. C'était surtout qu'elles nous disent ce qu'elles voulaient, tout ce qu'elles voulaient. À la fin, ça se dégradait, quoi. C'est par palier, cette maladie-là, en fait. Paf, ça descend d'un coup et tu repères encore une fonction. Alors donc, maman étant hospitalisée à domicile, donc on a un médecin des soins palliatifs qui est venu nous voir, auquel on a expliqué les volontés de maman, qu'elle voulait pas d'acharnement et qu'elle voulait en finir, partir. Et on est tombé sur un médecin qui m'a proposé la sédation profonde, mais pas tout de suite parce qu'il n'y avait pas assez de complications. Tant qu'elle n'avait pas de problème respiratoire, il ne voulait pas agir. Donc il fallait qu'on trouve une solution. Donc on m'a donné le nom d'un produit et je me suis débrouillée pour trouver ce produit. Et dès que j'ai été voir maman et que je lui ai dit « Maman, j'ai la solution », ma mère, elle a été radieuse, libérée. Elle savait qu'elle allait pouvoir partir. Et puis voilà, donc avec maman, j'ai dit « Maintenant, tu nous dis si t'es toujours prête ». Parce que j'ai dit à maman, j'ai dit, t'as quand même le droit de changer d'avis. Et donc, tu me rappellerais toujours, c'était en début de semaine et on avait programmé ça, donc en fin de semaine. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les jours, j'y suis allée. On a bien discuté, comme jamais, toute la semaine, à reparler de ce qu'on a fait ensemble. On a reparlé de mes enfants, de mes petits-enfants. Elle m'a parlé de sa vie. On a choisi sa tenue. On a choisi les pompes funèbres, le déroulement de la cérémonie, tout. Et surtout, tu n'oublieras pas de couper l'eau, des bricoles. Après, en fait, on a eu le temps de vraiment de tout se dire. Et elle m'a eu le temps de me dire qu'elle a été fière de moi. Elle a même eu le temps de le dire à mon frère, qui est passé la voir aussi. Et ça, c'est vachement bien, quoi, pour nous. En fait, moi, c'est moi qui ai un peu beaucoup préparé et je communiquais tous les jours avec mon frère. Et on s'était dit tel jour, telle heure. Donc, on s'est donné rendez-vous chez moi. On s'est préparé psychologiquement et on s'est donné plein de force. Et puis, on y est allé à l'heure qu'on avait dit à maman. Et il faisait nuit déjà. On n'a pas garé les voitures devant la maison de maman. On s'est garé plus loin. On est rentré dans la maison. On n'a allumé aucune lumière. À part une fois dans la chambre, les portes fermées, ça se voit pas de l'extérieur. On a mis des gants. On y est arrivé. Et maman nous attendait. Elle regardait la télé. On lui a donné un antivomitif. Et puis, on nous avait dit, vous attendez une demi-heure avant de... Mais maman, elle a pas tenu une demi-heure. Hein. Au bout d'un quart d'heure, elle a dit, allez hop, c'est bon, on y va. Donc on lui a donné, et elle qui buvait, mais quand même pas beaucoup, jusqu'à la dernière goutte, que je lui ai dit, non mais là c'est bon, il n'y a plus rien quoi. Jusqu'à la dernière goutte, tellement qu'elle avait la rage de partir. Elle nous a remerciés, elle nous a encore dit, je vous aime, je suis fière de vous, et merci pour ce que vous faites pour moi. En fait c'est une preuve d'amour. Moi je trouve... que ça fait, c'est un peu paradoxal parce que on aime tellement notre mère que bah tu la tues quoi. C'est dingue. C'était plus dur de la laisser toute seule chez elle, vivante sur son lit, d'avoir un sentiment de l'abandonner, que quand on a fermé la porte, que c'était fini, qu'elle était partie. Là, non, on est parti soulagée, qu'elle soit soulagée. J'ai eu de la colère après, quand ça a été fini. Colère après les médecins. Parce que j'ai estimé que c'était pas à nous de faire ça, quoi. Ça aurait pu être encore plus doux si on avait été aidé par un médecin. On aurait pu l'accompagner, être là, avec le médecin, mais pas faire l'acte. Vous vous rendez compte? Vous tenez le verre, vous tenez sa tête. C'était pas, moi, je trouvais que c'était pas à nous de faire ça.
Chantal Sébir s'est suicidée à l'aide de somnifères. C'est le procureur de la République de Dijon qui a révélé à la mi-journée les résultats des examens toxicologiques réalisés sur le corps de cette femme de 52 ans, atteinte d'une tumeur incurable au visage et retrouvée morte.
Marie Humbert est libre pour l'instant et se repose dans un hôpital du Pas-de-Calais après avoir passé la nuit au commissariat de Berck. Marie Humbert, c'est cette femme qui a tenté de donner la mort hier après-midi à son fils Vincent, âgé de 24 ans.
Elle souffrait d'une maladie incurable, la maladie de Charcot.
Qui paralyse les muscles et qui emmure progressivement. Humbert a été euthanasiée ce matin dans un hôpital belge, comme elle l'avait souhaité.
Philippe Bataille, vous êtes sociologue, vous travaillez entre autres sur la fin de vie, que ce soit sur le terrain de l'hôpital ou celui de la politique. Et dans un de vos ouvrages intitulé « Laissez partir », vous évoquez tous ces cas médiatiques qui ont marqué le débat ces 20 dernières années. Vincent Humbert, Vincent Lambert, Chantal Sébir, Anne Bert. Et vous avez écrit cette phrase très forte « Ces gens sont à l'origine de lois qui les oublient ».
Moi, je me suis appuyé sur ces exemples-là parce qu'ils ont une valeur exemplaire. Et j'ai publié, rendu public, des acteurs qui avaient eux-mêmes sollicité les médias, ou en tout cas les pouvoirs publics, pour rendre publique leur situation, pour pouvoir améliorer celle de ceux qui ne vont pas manquer de les suivre. Et c'est pour moi aussi un acte de solidarité émouvant que de voir que ceux qui sont au bout de la vulnérabilité et au seuil de leur mort, eh bien, souhaitent une évolution pour d'autres qu'eux, puisqu'effectivement, leur situation est celle d'aller mourir ailleurs. Et c'est le cas de Madame Sibir, notamment, institutrice. Enfin, voilà, ce sont des profils sociologiques qu'on retrouve, qui ont toujours été attachés à ce qu'on peut appeler la République, hein, à l'égalité, et qui demandent vraiment une évolution législative et finissent par se suicider tout seuls dans leur cuisine avec des produits vétérinaires, puisque le seul ami qu'elle avait n'était pas pharmacien, mais vétérinaire. Voilà, mais cette manière d'être obligé d'abord d'être seul et en plus de régler par soi-même les vides juridiques ou les impasses législatives, hein, je trouve ça d'une violence sans nom. Et le cas de Chantal Sébien avait déjà provoqué une révision de la loi de 2005, avec, pareil, un travail parlementaire, Jean Leonetti, qui était député à l'époque, et rien n'a avancé, rien n'est traité, et tous les cas dont nous venons de parler se retrouveraient à peu près dans la même situation.
D'abord, bonjour, et merci d'être là pour cette journée de sensibilisation à dernier secours.
Nous sommes ici dans un EHPAD du 20e arrondissement de Paris, où a lieu dans une grande salle, avec des chaises disposées en cercle, une formation dite de dernier secours. Elle est assurée par Barbara Eda Messi, infirmière à la retraite, et Véronique Comollet, administratrice de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP.
Bonjour, moi je suis Frédéric, je suis assistante sociale sur le diocèse de Nanterre et donc j'accompagne...
À l'aide de photos et d'un PowerPoint, le binôme se donne pour objectif affiché d'oser parler fin de vie.
Alors moi je m'appelle Martine, je suis art-thérapeute.
Autrement dit, d'acquérir les mots et les attitudes pour savoir accompagner une personne mourante.
J'ai choisi cette photo là, d'un regard très intense avec des mains...
Je montre la photo quand même, deux mains jointes avec un papillon dedans.
Bonjour, je suis Isabelle. Non, j'ai pris cette photo qui m'a fait penser à l'agonie finale. Voilà, j'ai mon papa qui est décédé il y a quelques temps. Et j'ai l'impression, voilà, ça m'a fait penser à lui, l'agonie finale. Recroquevillé. Et d'avoir loupé sa mort.
Donc, bonjour, je m'appelle Frédéric et j'interviens donc dans une unité de soins palliatifs. Et voilà le choix.
La SFAP, créée en 1990 et composée essentiellement de soignants et d'accompagnants bénévoles en soins palliatifs, se montre particulièrement présente dans le débat public sur la fin de vie. Que ce soit à travers une campagne publicitaire d'ampleur dans le métro ou les hôpitaux avec le slogan « Mes derniers jours, je veux les vivre et pas les compter », ou via les nombreuses interventions médiatiques de sa présidente Claire Fourcade, par ailleurs médecin en soins palliatifs, selon qui, je cite entre autres, « Donner la mort n'est pas un soin ».
Comment je peux accompagner ce temps-là et comment va se mettre aussi une chaîne solidaire qui va aller d'un accompagnement tout proche du proche aidant jusqu'à une prise en charge beaucoup plus sophistiquée dans des unités de soins palliatifs avec des équipes beaucoup plus formées.
Véronique Comollet illustre chaque diapositive d'une chose vue en soins palliatifs. Et des anecdotes, elle en a pas mal à raconter puisqu'elle est accompagnante bénévole au sein de la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Il s'agit de l'un des plus grands centres de soins palliatifs de France, mais également du siège de la SFAP, maison qui a la particularité de compter au sommet de son conseil d'administration la présidente de l'association des Dames du Calvaire et la mère supérieure de la congrégation religieuse des Xavières.
Et sur cette idée, quelqu'un qui va vous dire « je veux mourir », ça s'entend. Et ça ne veut pas dire « je veux qu'on me tue ». « Je veux mourir ». J'entends que c'est trop long pour toi. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ce soit un peu plus supportable? Pour qu'on puisse faire de cette journée quelque chose d'un peu mieux? Qu'est-ce qui serait possible? Parce qu'effectivement, hein, vous êtes allongé dans votre lit, vous avez perdu toute autonomie, vous avez perdu la possibilité d'agir comme vous avez agi dans votre vie. Donc il faut quand même une grande dose d'humilité, hein, quand on est patient, quand on est malade, quand on est en fin de vie, quand on est vulnérable. Il faut une grande dose d'humilité.
Est-ce qu'il s'agit d'agitation pré-mortem ou pas ?
Ce qui me saisit au fur et à mesure que se déroulent ces 6 heures de formation, c'est que les soins palliatifs sont abordés comme étant l'unique horizon des personnes en fin de vie et accessibles à tout le monde qui plus est. Ce qui laisse un peu perplexe quand on sait qu'en France, 21 départements en sont dépourvus. Par ailleurs, l'unique diapositive qui évoque explicitement la demande d'aide à mourir est balayée en quelques minutes et réduite à la seule manifestation d'une fatigue ou d'une déprime passagère de la personne malade. C'est donc sur la persistance de ce tabou au sein d'une formation qui prétend les briser que j'interroge Véronique Comollet.
Alors le positionnement militant de la SFAP, il est de dire que les soins palliatifs doivent être développés, accessibles à tous, en institution, à domicile, et d'accepter que lorsque l'on ne peut pas guérir quelqu'un sur un plan médicamenteux, on peut quand même le soigner. Et c'est de dire que jamais on abandonnera cette personne. Et que globalement, l'être humain a envie de vivre. Et ça, c'est impressionnant. Après, qu'il y ait des situations qui sont très difficiles, qui sont très douloureuses, il y en a sur lesquelles la demande va perdurer jusqu'au bout. Mais est-ce que pour ce cas-là, pour cette personne-là, est-ce que ça justifie le fait que maintenant, si une loi passe, chaque personne va devoir se demander si ce serait pas mieux si elle demandait l'euthanasie, alors qu'on a interdit la peine de mort il y a quelques années, on a décidé que nulle personne n'avait droit de vie ou de mort sur quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire, oui, si quelqu'un a perdu le sens de sa vie, eh ben oui, alors on est d'accord, on va le tuer. Je comprends pas, je trouve que ça répond pas à la demande, curieusement. Hein. C'est pas ça la demande aujourd'hui.
Vous, ça vous fait peur, le fait que une loi, probablement dans les mois à venir, un projet de loi en tout cas, autorise ne serait-ce que le suicide assisté?
Mais ça me rendrait super triste en fait, de me dire que on a cette réponse-là à donner, que c'est ça qu'on va donner comme réponse, et qu'on va bousculer, mais inconsciemment et forcément, les personnes qui n'avaient pas envie de se poser la question. Et vous avez des gens qui vous disent « je veux mourir » et qui s'autorisent à ça parce qu'ils savent que vous n'allez pas le faire. Et vous avez des médecins et des équipes soignantes qui vont se questionner et revenir vers la personne pour essayer de trouver comment l'aider dans ce moment-là de la vie. Si jamais c'est autorisé, ils ne vont jamais se questionner. Parce que la personne leur dira « mais non, j'ai pas envie de réfléchir à ce qui serait bien puisque j'ai la solution, vous me piquez demain matin ». Voilà, moi j'ai pas envie que cette société raconte ça.
Alors Véronique Fournier, vous êtes cardiologue, vous avez été présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie de 2016 à 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été particulièrement dur pour vous au sein de cette expérience-là ?
Alors ce centre s'appelait le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et je pense qu'il contenait en germe les difficultés que j'ai ressenties. C'est-à-dire qu'au fond, les gens qui aujourd'hui plaident pour une approche par les soins palliatifs de la fin de vie sont opposés à toute aide active à mourir. Et que nous avons considéré, moi la première, et après en avoir causé à la ministre qui m'a confié ces responsabilités-là, Marisol Touraine, imaginer que ce centre devait être le centre de tout le monde, et une maison commune dans laquelle toutes les positions pouvaient au moins s'exprimer sur ce qu'on souhaitait en matière de fin de vie, eh bien, les gens des soins palliatifs l'ont pas du tout entendu comme cela. Une grande partie, parce qu'on peut pas dire tout le monde, mais une grande partie des soignants qui sont engagés ou des gens qui sont engagés en matière de soins palliatifs sont extrêmement vigilants à ce que rien n'avance en matière d'aide active à mourir. Je pense que c'est vraiment cette expérience au centre d'éthique clinique qui m'a fait évoluer sur ces questions-là. C'est-à-dire que oui, en tant que médecin ou en tant que soignant en général, parce que pour les infirmières c'est pareil, et pour tous les soignants, notre formation nous conduit à avoir une façon de hiérarchiser les valeurs et de prioriser les choses qui est assez typée, quoi, qui est soignante. Voilà. Et au centre d'éthique clinique, j'ai choisi depuis le départ de créer un groupe multidisciplinaire qui fasse un peu intermédiaire entre la société civile et l'hôpital. Voilà. Et je crois que c'est vraiment cette mise au travail de l'éthique à plusieurs qui m'a fait évoluer. Et notamment à partir des demandes extrêmement fortes et impressionnantes des femmes qui sont venues nous voir en nous disant « faites quelque chose ». Est-ce que vraiment je suis indigne à demander ça ? Alors que nous avions vraiment l'impression que les demandes qu'elles exprimaient étaient justement frappées au bon sens de l'éthique, quoi. Quel est le mieux ou le moins pire pour celui que j'aime, pour mon fils, pour mon mari, pour mon père, pour ma mère, pour etc. C'était ça que venaient nous demander ces femmes. Et croyez-moi que quand elles venaient nous le demander, elles arrivaient souvent pas très sûres d'elles, très... Elles s'étaient beaucoup poussées pour venir jusque-là. Donc la rencontre avec ces femmes qui parlaient très juste, très vrai, et avec ce groupe multidisciplinaire qui les entendait autrement que comme moi, médecin, m'a fait évoluer sur ces questions-là.
Véronique Fournier, qui a donc fondé ce centre d'éthique clinique il y a 22 ans maintenant, raconte en effet dans un de ses ouvrages intitulé « Puisqu'il faut bien mourir » comment des femmes en majorité l'ont marqué en osant formuler à l'hôpital des demandes d'aide à mourir pour leurs proches. Elle raconte cette incompréhension qu'elle recevait pour seule réponse des équipes soignantes, comme une violence de plus dans un tel moment. Ce centre d'éthique clinique est donc né de la nécessité de trouver des issues à ces impasses et à ces incompréhensions.
Juliette Fontaine, je suis médecin, dermatologue et gériatre à l'hôpital.
Maëlle Knabel, je suis stagiaire ici au centre et j'ai une formation en éthique.
Ici, sous les toits de l'hôpital Cochin à Paris, des soignants, des sociologues, des psychologues, des journalistes, des juristes, des philosophes se réunissent toutes les semaines autour d'un cas médical et nourrissent leurs débats de leur expérience, de leur connaissance de la loi, de l'étude des principes éthiques. Et ce sont leurs débats qui nous renseignent le plus sur tous ces cas de fin de vie que les lois actuelles ne concernent pas ou si peu.
Nous sommes au centre d'éthique clinique, au staff hebdomadaire, où nous allons parler d'un cas. Et c'est Valérie et Daniel qui ont fait l'instruction de ce cas.
Merci. Donc, comme le précisait Nicolas, on a été appelé par une équipe soignante avec pour question d'appel, faut-il maintenir la gastrostomie pour ce patient de 40 ans que l'on doit attacher pour éviter qu'il ne l'arrache ?
Alors, il s'agit de l'histoire de Salim qui a une quarantaine d'années. Il est hospitalisé depuis mai 2023, initialement en réanimation, puis dans un service de médecine après un coma éthylique sur la voie publique, compliqué d'un arrêt cardio-respiratoire prolongé. Lors de sa prise en charge initiale, on ne sait rien de lui, si ce n'est qu'il est vraisemblablement SDF, donc il vit à la rue. Dès les premiers jours, une limitation thérapeutique est questionnée devant la gravité de sa situation clinique et le contexte d'une altération de l'état général avec une dénutrition sévère. Bien que vigilant, il ne parle pas et il ne semble pas comprendre.
Salim, il est en permanence soit alité, soit dans un fauteuil contentionné. Il ne peut pas marcher seul, il n'a aucune capacité de déglutition, donc il est totalement dépendant d'une gastrostomie.
D'une
alimentation artificielle qui est passée donc par ce tuyau. Que signifierait l'arrêt définitif de la nutrition artificielle ? De fait, ça veut dire qu'il va en mourir, puisqu'il ne peut pas manger, il ne peut absolument rien prendre par la bouche. Et donc si on n'a pas d'apport ni nutritionnel ni d'hydratation, ça va engager son pronostic vital dans une temporalité qui est de quelques jours à maximum quelques semaines. Serait-il en fin de vie ? Oui.
Très bien. Question éthique ?
Alors, sur le fond, quelle est la demande ? Peut-on arrêter la nutrition artificielle de Salim ? Que dit l'analyse éthique ? Premier principe, que dit le principe du respect de l'autonomie ? Est-ce qu'on peut déduire les volontés de Salim aujourd'hui ? Ce que l'on pense des volontés de Salim permet-il de savoir comment respecter son autonomie ? Faut-il décider en fonction de ce principe ? Selon les principes de bienfaisance et de non-malfaisance, la prise en charge médicale de Salim représente-t-elle une obstination déraisonnable, que ce soit aujourd'hui, maintenant ou plus tard ? Est-il malfaisant de poursuivre les soins en raison de la contrainte nécessaire pour cela ? Selon le principe de justice, est-ce que c'est discriminant de tenir compte des conditions sociales de Salim pour prendre des décisions médicales ? Est-ce injuste de ne pas le faire ?
Ce qui me vient, c'est que moi, je pense... Enfin, il me semble qu'on est quand même dans un contexte d'obstination déraisonnable, pour moi. Ce qui m'interpelle pour la nutrition, qui n'est qu'artificielle, je trouve qu'on lui fait autant violence avec la contention, quoi. Moi, ça me pose vraiment, vraiment problème.
On entend bien que la définition de l'obstination déraisonnable, notamment dans la loi, monsieur le juriste, tu me corriges, c'est le maintien artificiel de la vie. Et donc on est typiquement là-dedans.
Et donc, j'ai l'impression que c'est dans le seul but de maintenir le... C'est pas maintenir artificiellement la vie, parce que oui, il y a des tas de façons de maintenir artificiellement la vie.
c'est bien dans le seul but de maintenir. C'est pas tout à fait la même chose, semble-t-il. Je comprends pas pourquoi, en fait, on pose pas la question de savoir quand même si on est dans la loi ou si on ne l'est pas. Parce que bon, on nous dit quoi dans la loi ? On nous dit soit la personne s'est exprimée, effectivement, on peut lui retirer ses traitements parce qu'il a demandé, soit il n'est pas en état de s'exprimer, et à ce moment-là, on peut utiliser le critère de l'obstination déraisonnable. Alors on va me répondre, bah oui, mais il y a l'affaire Vincent Lambert, et dans l'affaire Vincent Lambert, effectivement, on a été amené à arrêter les traitements, mais d'abord, on ne l'a pas fait en deux minutes. On a essayé de retrouver une volonté annexe qui était exprimée par son entourage et qui a été effectivement mis en avant aussi au travers d'un certain nombre de phrases qu'il avait pu dire auparavant. Là, on est un peu dans le néant, quoi. C'est-à-dire que ce qui me gêne beaucoup, 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 c'est que, en fin de compte, on n'a effectivement pas accès à sa volonté. Est-ce que pour autant, éthiquement, ça peut vouloir dire qu'il n'est plus en état d'exprimer sa volonté ? Enfin, je suis prêt à penser qu'on est dans un acte complètement borderline, en arrêtant les traitements et en se disant qu'on est dans une obstination déraisonnable. Après, on l'assume, hein, éthiquement ou pas, mais en tout cas, il faut se dire qu'on l'assume. Ça, c'est le premier point.
Donc, qu'est-ce qui te ferait assumer un arrêt de nutrition artificielle chez lui ?
On pourrait considérer qu'on est effectivement excessivement malfaisant au travers, justement, de la contention.
Ben, l'argument que je mobiliserais, moi, c'est celui-là, c'est celui de l'obstination déraisonnable, sans surprise, sans doute. Et que, par ailleurs, c'est quand même assez terrible de rencontrer cet homme-là dans cette chambre qui n'a pour seule perspective que son plafond et qui, quand on le libère, n'a qu'une seule volonté, c'est l'oralité qu'il n'aura plus jamais. Voilà, donc moi, je considère que c'est la responsabilité médicale qui doit pleinement s'exercer dans cette situation-là.
Je m'assurerai, avant d'arrêter la nutrition, je gratterai un peu plus quand même sur son passé et s'il y a des gens autour de lui qui existeraient. Parce que, en fait, dans des situations équivalentes, la seule différence qu'on a, c'est qu'il y a des proches. Et donc, si effectivement on n'en trouve pas et que personne n'est capable d'avoir cette fonction pour lui, je pense que ce serait un argument pour arrêter.
Ils attendent l'accident.
Juste, on a 5 minutes pour entendre Bertrand, qui nous vient du Québec. Et nous dire un peu ce que tu en penses de toi, de la situation, mais aussi de comment le staff a fonctionné.
Alors, en deux temps, en fait, sur le cas et sur votre fonctionnement, en fait, sur le cas, bon, la question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qu'une vie digne ? C'est-à-dire, quel est le sens du soin qui est donné en ce moment ? C'est-à-dire que Salim, il a le droit à la vie. Mais le droit à la vie, c'est pas la vie à tout prix. De mon point de vue, c'est des conditions qui sont inhumaines. Ça respecte pas la dignité humaine. C'est pas. Et dernier point, ben en fait, au départ, on disait est-ce que le droit est. Finalement, le droit est pas très présent, mais finalement, c'est l'argument qui va trancher, non ? L'obstination déraisonnable, c'est sur le droit qu'on va s'appuyer.
Bon, ben merci à tous.
Dans l'attente d'une nouvelle loi, c'est encore auprès d'un collectif de soignants et de militants dans la région lilloise que certaines personnes, malades, viennent demander une aide pour constituer leur dossier médical et accéder à une euthanasie en Belgique.
Je suis gastro-entérologue maintenant retraité depuis un an et on est un collectif dans lequel il y a des soignants, essentiellement des médecins, qui sont de différentes origines. Alors comment procède-t-on ? D'abord par un premier échange téléphonique pour cerner un petit peu la demande. Et puis ensuite, on organise une consultation en binôme. Alors, on est toujours en binôme médical. Et puis, on va jusqu'à faire un dossier médical. Et puis, on l'adresse ensuite en avis à un de nos collègues en Belgique. On propose de les accompagner à la fois aux consultations et éventuellement jusqu'à l'aide médicale active à mourir.
Aujourd'hui, nous accompagnons François Guillemot dans une mission de suivi auprès d'un de ses patients, Frédéric, atteint d'une sclérose en plaques.
Alors nous, par définition, en fait, quand on envoie des personnes qu'on accompagne en Belgique, le dossier est déjà quasiment validé. Parce qu'on sait
un épais dossier médical qui se constitue depuis 2 ans et demi et qui aboutira bientôt à un premier rendez-vous en Belgique.
Ben, on va se revoir donc, pas ce lundi, mais le lundi qui suit. Mmh. On va ensemble en Belgique donc pour une consultation avec une médecin neurologue qui va permettre de confirmer, je pense, le caractère incurable. Hein, je vous avais expliqué que c'était important de bien souligner le caractère incurable de la maladie. Voilà, on a passé un bon bout de temps ensemble. Et donc, je connais bien l'histoire récente avec une dégradation, quand même, on va dire, de vos
possibilité de motricité, c'est en ça. Particulier de la main, etc.
Ce qui est ma motivation voilà. Pour aller en Belgique. Quoi.
Et par ailleurs, vous vous plaignez de douleurs
neuropathiques.
Voilà, c'est ça. Qui est là, les douleurs neuropathiques.
Comme là, actuellement, ça me brûle sous le talon, mais voilà. Quoi, ouais. Le diagnostic a été posé en 2010. Au bout de 5 ans, j'étais en fauteuil roulant. J'annonce à mes enfants, ça fait 8 ans, que le jour où je ne pourrai plus physiquement ou psychiquement, j'irai en Belgique.
Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était le moment ?
Ah, je suis en train de perdre ma main gauche, j'ai ma dernière source d'autonomie. Quoi. Ma main gauche me permet d'utiliser mon fauteuil roulant électrique, me permet d'utiliser mon téléphone. À partir du moment où j'ai plus ma main gauche, je me retrouve totalement dépendant. Et je ne voulais pas finir comme une plante verte. On va déposer le matin à un endroit. Et puis après, je passe la journée à attendre qu'on me donne à manger. C'est le degré d'acceptation que je ne supporte plus. Je peux accepter beaucoup de choses, je viens de sur mon changement d'état, tout ça. Mais ne plus pouvoir rien faire, etc., non.
Et vous, de vous retrouver dans cette démarche, de l'enclencher, ça vous a fait quelque chose ?
Bah oui, bien sûr, ça a été une délivrance. J'ai mieux dormi après. On parle souvent de souffrance physique. Et donc là, les gens disent « Ah oui, mais on a toujours des produits pour, etc. Voilà. » Mais la souffrance psychique est souvent occultée, quoi. Enfin, ça a été quand même bien vu dans la Convention citoyenne, quoi, qui, malheureusement, va pas servir à grand-chose, quoi, dans ce cas-là, quoi. Mais bon, les gens étaient favorables à l'euthanasie, etc., 75%, etc. Donc, je veux dire, à quoi ça sert de demander, l'avis des gens, d'avoir une représentation citoyenne, etc., si c'est pour pas en tenir compte, quoi. La proposition de loi devait être faite en septembre. Le pape est venu, on l'a repoussé. Et puis du coup, voilà, maintenant ça devait être février, je crois, vous avez dit la prochaine. Et puis maintenant, ils en disent peut-être pour la fin de l'année. On va jamais y arriver, quoi. Ça, c'est moi, mais je pense pas qu'à moi, quoi. Ah oui, ça me met en colère.
Merci à Antoine Meynier, Valérie Ménage, François Blot, Anne Carole, Véronique Fournier, Philippe Bataille, Denis Labelle, Véronique Schaeffer, Muriel, Véronique Comollet, François Guillemot et Frédéric. Merci à Nicolas Fourreur et à toute l'équipe du Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin à Paris et à Perrine Galmiche. Merci également à Catherine Renard et aux participants à la formation Dernier Secours de l'ASFAP. Prise de son, Lucien Lefebvre, Julien Bourdet et Pierre Henry. Mixage, Antoine Viossa. Documentation d'actualité, Carole Roy. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Des vivants jusqu'à la mort. Premier épisode, Anatomie d'un tabou. Un documentaire d'Émilie Chaudet, réalisé par Cécile Lafont. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'appli Radio France.